au congrès virtuel de FTI 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. Le FTI est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Aujourd'hui, notre conférence s'intitule « L'homme, la femme et l'EFT ». Notre intervenante va nous parler du couple, un sujet qui nous intéresse tous, parce que nous cherchons tous la même chose, rencontrer cet autre qui va nous compléter et remplir notre vie de joie. On se rencontre, on est heureux et on désillusionne. Comment passons-nous de l'état amoureux du début où la simple présence de l'autre nous remplit de joie à cet autre état « Est-ce que j'existe encore pour toi ?» Tu es la cause de mon malheur, ou je n'existe plus pour toi. On veut contrôler l'autre, ou bien le fuir, fusionner, ou se séparer. Comment passer de l'amour dépendant à l'amour avec un grand A? Agnès Popper, notre intervenante de ce soir, pratique la médecine chinoise et l'EFT à Rouen, en France. L'EFT s'est imposé comme sa technique de prédilection pour aider les personnes qu'elle reçoit à reprendre la responsabilité de leur vie et à réveiller leur pilote. Elle a reçu en séance un grand panel représentatif d'hommes et de femmes, et c'est pour ça qu'elle se permet aujourd'hui de nous parler du couple et de la communication. Bienvenue Agnès.
Merci Maria. Bonjour Maria. Et bonjour à tous qui nous écoutent, merci de prendre ce temps, cette semaine, pour permettre à cette rencontre d'exister. Merci aussi à Maria et à Noël, à toute l'équipe, merci à vous d'avoir eu la vision de cette rencontre et d'avoir mis toute votre attention et toutes vos énergies depuis des mois pour la rendre possible. Vraiment merci, hein, Maria. Moi, je me réjouis de cette heure que nous allons partager ensemble, articulée en une grande partie de théorie et de mise en pratique. Et ensuite, vous serez les bienvenus pour poser vos questions autour du thème « L'homme, la femme et le FT ». Mon objectif aujourd'hui, c'est de bien vous faire ressentir les deux faits, se connecter pour mieux communiquer. Alors, comme vient de vous le dire Maria, je suis Agnès Popper. Depuis 16 ans, je pratique la médecine traditionnelle chinoise. J'ai rencontré l'EFT en 2008 en la personne de Louise Gervais. Et cette rencontre a été une révélation pour ma pratique et aussi personnellement. Et au passage, j'embrasse notre chère Louise. L'EFT nous permet de ne plus subir notre vie, mais d'en devenir le créateur qui est fondamental pour notre thème d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi et comment ouvrir cette porte à l'intérieur de nous, se connecter à soi et à ce que j'appelle notre pilote. On va voir pourquoi.
Ah oui, tu vas nous parler de ça, oui.
Ouais. Bon truc. Et puis, on va voir aussi comment sortir des deux émotionnels pour ne plus subir la relation, mais la vivre comme un laboratoire et mieux communiquer à deux. Passer de l'amour qui souffre à l'amour qui s'offre pour reprendre la formule de Jean-Yves Leloup dans « Qui j'aime quand je t'aime ». Et tout ça, entre autres, grâce à l'EFT, évidemment, cet outil simple et efficace qui nous réunit tous cette semaine-là.
Oui, alors tu parles de l'importance de s'aimer soi d'abord, mais est-ce que c'est pas un peu égoïste? Ça serait bien plus pratique que l'autre nous remplisse de l'amour que nous cherchons, non? Et le prêtre charmant dans tout ça, Agnès?
Alors pour répondre à ta question, Maria, je vais commencer par prendre la définition du mot amour. Si on regarde dans le Larousse, l'amour c'est l'inclinaison vers une autre personne. Donc déjà, on voit que même dans la définition du dictionnaire, on est programmé à chercher l'amour à l'extérieur, à tendre vers un autre, chercher à l'extérieur de nous ce qui pourrait nous remplir. On attend donc que l'amour de l'autre nous apporte la plénitude. Ça fait écho avec les contes de fées, hein. Je ne sais pas pour toi, Maria, mais...
Si je t'ai parlé très clairement, oui, ça doit venir de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est une référence que j'utilise souvent aussi dans mes séances.
Alors moi, mon conte préféré, c'est quand même La Belle au bois dormant, qui dort tellement elle est en attente. Elle attend ce prince qui va venir la sauver. Mm-hmm. Mais moi, comme je dis souvent, j'attends le tome 2, hein, avec qu'est-ce qui se passe quand le prince ne sort pas la poubelle, par exemple.
Ah oui. Peut-être qu'il vaut mieux se rendormir à ce moment-là pour la belle.
Donc déjà, cette plénitude, on est bercé par cette plénitude quand on lit des contes de fées, quand tout notre imaginaire d'enfant est bercé par cette plénitude. C'est aussi la promesse de la mythologie. Et je lisais un livre, donc celui dont je viens de vous parler, de Jean-Yves Leloup, qui aime quand je t'aime, qui explique que dans le Zohar, qui est une explication ésotérique de la Torah, on ne peut pas vraiment dire que Ève est une côte d'Adam, mais que Ève serait l'autre côté d'Adam, et que Adam serait coupé en deux. Et qu'en tant qu'homme coupé en deux, donc en tant qu'homme et femme, on est condamné à chercher l'autre pour se sentir complet. Donc on voit que dans la mythologie, c'est pas la seule, hein, je vais pas toutes les citer, mais j'en ai vu pas mal. Dans beaucoup de mythologies, il y a aussi ce mythe de l'androgyne originelle qu'on recherche en recherchant l'âme sœur.
Oui, et dans le langage courant, on parle de ma moitié.
De ma moitié, exactement. Donc on est la moitié de l'autre et on n'est pas complet. Puis il y a aussi là, en psychologie, notre première relation, c'est quand même notre relation à notre mère. Et en tant qu'enfant, bébé dans le ventre de sa mère ou la première année de l'enfant, on n'est pas complet. On est complètement dépendant. On attend que l'autre, l'extérieur, nous remplisse et nous apporte ce dont on a besoin. Dans cette relation première, on recherche à l'extérieur et on donne à l'extérieur le pouvoir et le devoir de nous combler et de nous remplir. Mais est-ce que c'est vraiment juste pour l'autre? Et est-ce que l'autre, comme tu disais tout à l'heure avec ma moitié, n'est pas en train de faire la même chose? Donc comment trouver cette complétude si on ne la trouve pas à l'intérieur de nous?
Oui.
Alors oui, Maria, je crois sincèrement, mais j'attends plus vraiment qu'il vienne me sauver. Ça ne serait pas juste pour lui et ni pour moi.
Et alors, est-ce que tu attends toujours qu'il sorte la poubelle, Agnès?
Comme il écoute ce soir, on va peut-être...
Bon, hors sujet, pardon.
Mais on équilibre les tâches et on est d'accord avec les tâches.
Voilà, vous êtes en plein dans le tome 2 alors.
J'écrirai le tome 2 pour
vous. Ouais. Alors je pensais juste à une réalité mathématique qui peut être intéressante à préciser à ce moment-là, c'est que une moitié multiplié par une autre moitié, ça ne fait pas 1.
Ben oui.
Parce que si l'autre aussi passe le temps à chercher sa moitié, effectivement, on...
Exactement.
C'est petit pas le secret de la...
De Exactement. La... Et c'est au contraire, on se divise plutôt qu'on se multiplie. C'est une jolie image aussi, je te remercie, Maria. Et c'est bien pour ça que j'adore le FP, c'est que dès la première ronde, la question est là. Est-ce que moi, je peux m'aimer? Parce que dans toutes les rondes de FC, tu es d'accord avec moi, Maria, on pose le négatif et on le contrebalance par le positif. Même si je suis brouillée avec ma fille, je m'aime. Même si mon mari n'est jamais content, je m'aime. Même si j'ai mal au dos, je m'aime. Donc ce « je m'aime » vient contrebalancer. Mais ça nous donne l'occasion, et on va voir justement tout de suite, je vous propose qu'on le fasse ensemble, de voir à quel point on s'aime. Donc si tu veux bien, Maria, et si vous le voulez bien aussi, on va tout de suite faire un peu de FP.
Oui, on est là.
Voilà, on va tapoter une ronde de je m'aime.
Alors, s'il y a des personnes qui nous écoutent, Agnès, qui trouvent que, bof, franchement, je m'aime pas beaucoup, surtout quand je dis cette phrase-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils le disent quand même ou ils adorent?
Ah oui, alors moi, c'est vrai que dans les séances, j'insiste pour que les gens le disent parce que je pense, et on va le voir après aussi, on se dit suffisamment d'horreur en général, t'es nulle, t'es trop grosse, tu fais ceci, tu fais pas ceci, etc. Donc on peut, même si on se ment, se dire je m'aime, et au contraire, et c'est un peu la magie de l'EFT, au bout d'un moment, il se passe plein de choses et on trouve une vraie joie à se le dire.
Donc, oui. Donc, même si vous n'y croyez pas complètement, dites-le comme si vous y croyez.
Exactement.
Et on va voir ce qui se passe.
Donc, je te propose, et je vous propose à tous, qu'on commence par le point karaté.
Mm-hmm. Donc, le côté de la main.
Voilà. En disant juste « je m'aime ».
Comme ça, tout simplement.
Voilà, « je m'aime ».
D'accord. « Je m'aime ».
Sur le haut de la tête, « je m'aime ». ».«
Je m'aime ».
Sur le point interne de l'œil, « je m'aime ». ».«
Je m'aime ».
Et soyez attentifs à ce que ça fait résonner en vous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que vous avez des oui-mais? Ou non, c'est pas possible? Qu'est-ce qui lutte à l'intérieur de vous?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui est d'accord? Sur le coin extérieur de l'œil, je m'aime.
Je m'aime.
Sous l'œil, je m'aime.
Je m'aime.
Au-dessus et au-dessous de la bouche, je m'aime.
Je m'aime.
Sous les clavicules, je m'aime.
Je m'aime.
Sous les seins, je m'aime.
Je m'aime.
Sous les bras, je m'aime.
Je m'aime.
Moi, j'aime bien revenir au point qui est sous les clavicules, qui est le grand point des reins et donc les points des peurs. Et puis, c'est le point central de toutes les rondes de FT. Donc, on revient sur le point des sous les clavicules, je m'aime.
Je m'aime.
Alors, Maria, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu dis « je m'aime » ?
Ben, vous ne pouvez pas me voir, mais j'ai la banane. Dès les premiers tapotements, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un énorme sourire.
Alors
je dois avouer que ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Quand j'ai rencontré l'EFT, au début, cette phrase « je m'aime, je m'accepte », ouais, c'est ça. Ça passait pas trop. Mais à force de le dire, et à force de faire beaucoup d'EFT sur moi et avec mes clients, oui, aujourd'hui, j'aime dire que je m'aime.
Et c'est génial.
Exactement.
Et je pense que c'est vraiment au centre de l'EFT, d'arriver à se dire je m'aime.
Oui.
C'est vraiment, voilà, on ne dit pas comme ça au départ quand on présente l'EFT, mais c'est vraiment au centre de l'EFT, et ce je m'aime, on va le voir, c'est vraiment très très important. Donc effectivement, si vous êtes comme Maria, c'est génial, si vous avez une super technique, alors gardez-la. Cette technique, c'est peut-être l'EFT, j'espère. Pour moi, c'est vrai que l'EFT, ça a changé ma vie dans ce sens-là aussi, parce que comme Maria, j'ai pas pu dire ça toute ma vie. Hein. Au début, ce je m'aime, je cherchais à l'extérieur. Je le rencontrais parfois lors d'un coucher de soleil, furtivement, ça fait des choses, dans les bras de quelqu'un aussi, mais toute seule, pouvoir dire je m'aime, c'était compliqué.
Mmh.
Et c'est vrai que je suis toujours surprise et étonnée de voir la réaction de dégoût, de rejet, d'impossibilité même, hein, comme tu nous l'as rappelé Maria, de cette première phrase. Parce que la personne qui vient en séance de SC, elle sait ce qu'elle vient travailler.
Oui.
Finalement, ce qui nous paraît à nous dramatique en tant que thérapeute, c'est ce qu'elle vient travailler. Je suis brouillée avec ma fille, mon mari n'est jamais content, j'ai mal au dos ou autre. Tout ce qui nous est présenté. Ils en sont conscients, ils viennent avec, vous venez avec. Mais le « je m'aime », c'est la surprise. C'est la surprise de l'EFT. Et généralement, les gens ne sont pas d'accord. Ils disent « ben non, c'est pas possible. Je peux pas dire ça parce que je ne m'aime pas. »
Ben oui, et vous n'avez rien compris. Je viens de vous expliquer pourquoi c'est impossible pour moi de m'aimer.
Exactement.
Ouais.
Et justement, c'est bien pour ça que j'insiste. Parce que, effectivement, en EFT, on a besoin de contrebalancer par du positif, ce négatif. Et le « je m'aime », c'est du positif. Et il va falloir trouver cette ressource à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui va se passer pendant l'heure d'EFT de cette rencontre avec la personne. Il va se passer plein de choses. Et généralement, à la fin, même si c'est un tout petit peu, la personne va avoir ouvert une porte en elle et elle va pouvoir dire « je m'aime » autrement.
Oui.
Et là, je sais pas ce que t'en penses, Maria, mais... c'est magique. Quand le « je m'aime » prend une autre connotation, il s'est passé plein de choses pendant la séance et on commence vraiment à toucher à la magie de l'EFT.
Oui, complètement. Et c'est vrai que ce « je m'aime, je m'accepte », c'est le petit trésor caché de l'EFT. On n'insiste pas trop là-dessus au début avec la plupart de nos clients, mais ils le découvrent.
Exactement.
C'est vraiment une force. Oui.
Exactement, c'est vraiment une porte, c'est le centre de cette thérapie et c'est vraiment une porte. C'est ce qui nous permet de nous dire que quoi qu'il nous arrive, on est là pour nous-mêmes. Mmh. Et on va voir après en quoi c'est si important, justement. Comme on vient de le voir et de le souligner avec Maria, pour nous, ça n'a jamais, ça n'a pas coulé de sorte tout de suite. Et généralement, on ne s'aime pas, on se juge, on se compare, on se supporte dans le meilleur des cas, mais la plupart du temps, on se déteste. Mmh.
Alors, si ça, ça ne coule pas de source, comment faire pour retrouver ce « je m'aime » en nous?
Alors justement, on va voir de la pratique pour voir un peu comment mettre ça en œuvre. Mais au niveau théorique, il faut se reconnecter à nous-mêmes. On parlait, je vous ai annoncé le pilote tout à l'heure, je vais vous en reparler plus longuement. Mais pour ça, le plus dur, c'est de comprendre et de prendre conscience qu'on est déconnecté, on est endormi, on est en pilotage automatique 95% de notre journée, comme nous. Voilà. Bien expliqué, Bruce Hipton, ça a été repris par Sophie Merle. Je vous l'avais expliqué lors d'une conférence mouvement aussi, donc voilà, on est en pilotage automatique géré par notre mental. Et ce mental, c'est pas nous. Il contient, entre autres, une compilation de programmes qu'on a téléchargés enfant pour copier, satisfaire, survivre à nos parents. Les mots sont un peu forts, hein, mais bon, je vais pas tout expliquer, et si ça résonne, tant mieux. Mmh. Et sous ces programmes, il y a la survie, et donc, il y a de la peur, beaucoup de peur. Peur de l'autre et peur de soi-même. Mmh. Le mental, il n'est pas négatif, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Le mental, on en a besoin. Mais c'est notre ordinateur. C'est un esclave. Il est parfait pour faire tout un tas de choses. Il est utile, rapide. Il peut nous emmener sur la Lune, ce qui est quand même assez hallucinant. Il peut conduire nos voitures. Il peut créer des téléphones portables et toutes ces petites choses qui accompagnent notre quotidien. Il est parfait pour ça. Mais on le laisse tout gérer, et même nos émotions. Et ça, il ne sait pas faire. Donc, au lieu de le gérer, il réagit en ressortant le programme téléchargé de notre enfance qui correspond. Mmh. Donc, voilà, il va pas raisonner, il va réagir.
Et qui en plus, ce programme qu'on a téléchargé en étant enfant, il était déjà un peu virulé à l'époque.
Exactement.
Parce qu'il venait d'un autre mental qui, lui non plus, ne savait pas trop gérer ça. Mais exactement. On a pris tel quel et on a pris les virus et les spyware et tout le tralala avec.
Exactement, et ça remonte à loin. Mmh. Donc c'est déjà prendre conscience que je suis en pilotage automatique, que je suis identifiée à mon mental et que ce mental est programmé. Et que si je suis, quand je suis dans cette identification-là, et donc on a vu que la magie de l'EFT c'était de nous sortir de ça, mais on va le voir plus en détail après, il y a de fortes possibilités pour que je me déteste, pour que je sois en permanence mon pire juge. Alors oui, je juge les autres, mais je me juge en permanence. J'ai cette petite voix dans ma tête, et qui vient de tous nos programmes, hein, on vient de le dire, qui va me dire tu es nul, tu n'y arriveras jamais, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et où que j'aille. Et ça, c'est bien notre malheur. Et Stephen King, dans son livre Dr. Sleep, Stephen King, qui n'est pas un grand psychologue, mais qui est un auteur de livres d'horreur, nous le rappelle. Où que tu ailles, tu t'emmènes toujours avec toi.
Venant de sa part, ça me fait des frissons dans le dos, je dois dire, mais c'est vrai. Et on voit, moi, je vois beaucoup de personnes qui passent leur temps à courir, pour s'échapper d'eux-mêmes, et je l'ai fait aussi, hein. Exactement. Et ça m'arrive encore, mais c'est vrai que l'ennemi est à l'intérieur.
Et on peut aller très très loin, je pense que même si on est astronaute, on peut aller loin hors de notre belle Terre, on s'emmène toujours avec soi. Donc c'est déjà donc bien prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on est en pilotage automatique et chercher ce pilote. Alors on va prendre l'analogie d'une voiture. Si notre corps c'est une voiture, le mental ça va être l'ordinateur, hein, on l'a déjà dit, l'ordinateur, l'esclave, le GPS. J'ai lu dans le livre de Bénédicte Anne, Le prochain c'est le bon, c'est un programme. Pour elle, le GPS, qui est donc le mental, c'est le guidage par le subconscient, j'ai trouvé ça assez génial. Mais on n'a toujours pas de pilote, c'est pas le pilote de notre corps. Et notre pilote, c'est notre essence. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, Maria, mais moi, personnellement, premièrement, j'en ai longuement ignoré l'existence. Et je l'ai cherché ailleurs, parce qu'on a l'intuition qu'il existe. On cherche ailleurs, donc, bercé par les contes de fées, bercé par cette, c'est ce mythe de l'androgynie qui est bien au fond de nous. Mais justement, si on reprend le mythe de l'androgynie, l'homme est coupé en deux, mais il n'est pas coupé de la femme, il est coupé d'une partie de lui-même. La femme, dans le texte biblique et dans ce Zohar, et c'est ce qu'explique Jean-Yves Leloup, c'est l'autre partie de lui-même. Et c'est peut-être aussi cette princesse endormie que je critique tant dans l'appel au bois dormant, cette princesse endormie, est-ce que c'est pas cette partie de nous qu'on cherche, mais qu'on cherche à l'extérieur? Donc, notre pilote, c'est notre essence, c'est notre centre, c'est ni notre mental, ni nos émotions. Il observe tout ça. Il est qu'amour, il existe, il est toujours là, toujours disponible. Il se pense pas, mais il se ressent. Et plus on est conscient, plus on est en contact avec ce pilote, plus on peut changer nos programmes, plus on peut passer du pilotage automatique au pilotage conscient. Et c'est un peu ça, finalement, la loi de l'attraction, hein, Maria, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais bon, dans le secret, on m'explique la loi de l'attraction. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, parce que je me disais, ben voilà, je demande de l'amour, alors c'est quoi le problème?
Ben oui, et je demande, et ça vient pas. C'est quoi cette histoire?
Mais quand je demande de l'amour, qu'est-ce que je suis vraiment en train de vibrer? Je vibre le manque. Si je demande de l'amour, c'est que je ne l'ai pas. Donc je vibre le manque d'amour. Et l'univers, comme je dis souvent, il est pas dans le jugement. Et il va nous donner au centuple, parce qu'il est super généreux, il va nous donner au centuple, pas ce qu'on demande, mais ce qu'on vibre. Et si je vibre le manque d'amour, si je suis la princesse qui attend son prince et qui attend que ce prince lui apporte la solution, le comble et me complète, eh ben je vais attirer un sauveteur, mais qui va être vide comme moi, vide de malgré toutes ses promesses. Donc ce qui est important, c'est de vibrer ce qu'on cherche. Et pour le vibrer, il faut être en contact avec son pilote. Donc en étant en contact avec ce pilote, je vais forcément attirer ce que je vibre.
D'accord. Alors concrètement, comment vibrer la plénitude plutôt que le manque? Comment réveiller ce pilote pour qu'il sorte de son pilotage automatique et qu'on passe vraiment aux commandes?
Alors j'ai longtemps cherché, hein, parce que déjà il faut le comprendre, comme on a dit tout à l'heure. J'ai longtemps cherché, on me disait, ben, il faut aime-toi, connecte-toi, et je comprenais vraiment pas ce qu'on me disait. Il y a plein de façons pour faire ça, hein, il y a plein de techniques, et en ce moment c'est assez magique, et grâce à Internet on peut trouver plein de pistes, et c'est super. Il y a la méditation, évidemment, la pleine conscience, toutes ces nouvelles techniques avec des sigles, dont l'EFT, hein. L'EFT c'est aussi une technique super pour ça, et on va le voir après. Et moi, j'ai trouvé un exercice que je vais vous proposer de faire avec moi, qui n'est pas vraiment de EFT, mais qui le rejoint et que je fais moi dans mes séances de EFT, qui est un exercice qui nous aide vraiment à être en contact avec ce pilote. Donc, si tu veux bien, Maria.
Ah, bah oui, ça m'intéresse, oui.
Je vais te donner mon exercice secret. Enfin, qui n'est pas secret, parce que je le donne à tous mes patients, mais bon. C'est bien bizarre qu'on a des secrets.
Ouais. Donc non, c'était tellement secret que tu le connaissais même pas, donc je pense que tu peux pas me l'appeler comme ça.
Exactement. Je vous propose de vous installer confortablement, si c'est pas déjà le cas, les pieds bien en contact avec le sol, le dos en contact avec le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil, et de respirer naturellement. Vous pouvez fermer les yeux et mettre les mains sur votre estomac, sur la zone de votre estomac, la zone du plexus solaire et le centre de l'homme pour la médecine chinoise, centre des émotions pour les chakras. Et là, je vais vous proposer tout simplement d'imaginer et de ressentir que vous êtes dans les bras de quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Imaginez la chaleur de cette personne. La chaleur de sa peau, imaginez son odeur, imaginez la pièce aussi. Ressentez la chaleur sous vos mains, la confiance, la détente, le sentiment de protection et surtout, surtout de l'amour qui circule entre vos deux cœurs, comme un huitain. Alors, si vous êtes célibataire et que vous dites « je suis personne à qui imaginer », c'est pas grave, au contraire, c'est un très bon exercice pour attirer quelqu'un dans votre vie, et en bonus, vous ressentez déjà cet amour que vous recherchez, et comme on vient de le dire, c'est vraiment le principe de la loi de l'attraction. S'il n'y a pas de visage, c'est pas grave. Si vous êtes en couple, ça va réveiller votre amour pour vous-même et votre amour pour l'autre. Si vous ne souhaitez pas imaginer votre conjoint, vous êtes libre d'imaginer qui vous voulez. Sentez bien la chaleur sous vos mains. Et dans cet espace-là, est-ce que vous avez toujours envie de juger les autres? Dans cet espace-là, est-ce que vous avez envie de vous juger vous-même? Dans cet espace-là, vous êtes parfait et unique maintenant. Constatez comme il est facile de ressentir cette détente, ce bien-être. Et si c'était tout simplement ça, s'aimer soi-même. Que nous allons chercher longtemps à l'extérieur et pour de vrai à l'intérieur. Et c'est ça la merveilleuse nouvelle de Stephen King. Où que tu ailles, tu t'emmènes toujours avec toi. Quand je suis en contact avec mon essence, ma source, je peux être bien partout. Moi seule peux m'abandonner si je me coupe de moi-même, de mon pilote, de mon amour pour moi. Je vous laisse le temps de bien ancrer cette sensation, de bien la ressentir. Cherchez surtout pas à la garder, elle est toujours là, toujours disponible, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez pas la perdre cette sensation, vous pouvez juste vous en couper. Mais si vous cherchez avec le mental à la garder, c'est pas la solution, elle est toujours là, toujours disponible. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Alors Maria, qu'est-ce que tu en penses de cet exercice? Qu'est-ce que tu as ressenti?
Mais c'est très agréable. Et la personne à laquelle j'ai pensé est très 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 loin et pourtant
et c'est ça qui est
bien dans ses bras.
Parce qu'effectivement, il n'y a pas de
oui.
L'espace n'existe pas.
Non, et le temps non plus, parce que c'était il y a longtemps.
Et le temps non plus, donc à tout moment, on peut ressentir que cette complétude et finalement on se piège à s'aimer soi-même. Parce que pour de vrai, vous étiez tout seul. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont fait vraiment cet exercice à deux, hein, je sais
oui,
pas.
Oui, oui.
Pas tout le monde.
Il peut être génial aussi, c'est sûr.
Et c'est bien aussi. Mais vraiment, la magie de cet exercice, c'est qu'à tout moment, au bureau, dans les transports, bon, peut-être pas en conduisant, quoi que
non.
Fermez pas les yeux. Et vous pouvez être en contact avec vous-même. Et c'est ça votre pilote. C'est cette bulle d'amour qui est à l'intérieur de vous et qui est toujours là, toujours disponible. Toujours là pour vous.
Mmh.
Alors pour ceux qui n'auraient rien ressenti, hein, comme nous, Maria, il y a longtemps, hein, quand on était sur le début de notre chemin.
Oui, où j'ai l'image de quelqu'un, effectivement, comme tu disais, qui cherche son partenaire, qui ne trouve personne. Et je vois un petit personnage avec les bras croisés, les sourcils froncés, qui dit « Ben non, j'ai rien ressenti, il n'y avait personne, même dans ma tête, il n'y a personne pour me prendre dans ses bras. » Et c'est vrai que ça peut avoir un côté frustrant aussi.
Voilà, alors, on va voir d'autres choses qui peuvent nous aider justement après.
Mm-hmm.
Mais vraiment cet exercice, moi je vous encourage à le faire. Parce que justement, moi j'ai plein de patientes célibataires qui m'ont fait cette réflexion. Oui, mais c'est pas concret, moi je veux du concret. Je veux un vrai homme pour me tenir vraiment dans ses bras. Et moi, je l'ai fait comme ça. L'homme que j'ai manifesté dans ma vie et qui partage ma vie maintenant, j'avais rencontré cet exercice 2 mois avant et je le faisais tous les jours.
Mmh.
Tous les jours, j'imaginais dans les bras d'un homme que j'aime et qui m'aime. Et je ressentais cet amour. Donc je réveillais mon pilote et j'envoyais plein d'amour à cette personne qui me cherchait et que je cherchais.
Mmh.
Et je l'ai rencontré en 2 mois. Donc, quelque part, c'est pas très long quand même, hein.
Oui.
Donc au contraire, plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vibrer l'amour, donc vous serez moins dans l'attente, hein, parce que imaginons quelqu'un imaginez une femme qui cherche un homme, si elle va en soirée, qu'elle cherche un homme et qu'elle vibre le manque, elle va pas attirer les hommes, elle va les faire fuir, ou alors elle va pas attirer les bons. Et au contraire, si elle vibre l'amour,
on commence à trouver.
Exactement. Si elle fait cet exercice et que tous les jours un peu plus elle est en contact avec son pilote, qu'elle se piège elle-même, et je n'utilise pas ce mot par hasard, qu'elle se piège elle-même à s'aimer elle-même, et bien elle va vibrer l'amour, le rayonner, et là il y a des chances qu'elle l'attire. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, Maria, mais généralement quand on rencontre quelqu'un, on se dit « Ah waouh, ça fait des années, ou des mois, non ?» Bon, avant c'était des années, mais la dernière fois donc, ça a duré que 2 mois grâce à cet exercice.
Ouais.
Mais entre autres, hein, mais parfois ça dure des années, on se dit mais c'est pas possible, il n'y a personne autour. Et puis dès qu'on rencontre quelqu'un, il y a plein de gens qui se présentent.
Mm.
Et on se dit mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, on est en contact avec cet amour et on le rayonne.
Tout à fait.
On peut le rayonner tout de suite.
Oui.
Donc si vous n'avez rien ressenti, c'est pas grave, hein. Aussi je prépare un PDF dans mon bonus pour vous donner d'autres petits trucs, d'autres petites clés efficaces, que je ne pouvais pas tout dire là, mais cet exercice c'est vraiment celui que je fais faire systématiquement et que j'affectionne.
Mm-hmm.
Voilà.
Bien sûr, et dans un premier temps, stop aussi vous, même là si vous sentez une frustration parce que l'exercice ne vous a pas apporté tout le bonheur dont vous rêvez, tapotez.
Exactement.
Et ça ira déjà tout de suite mieux, je pense.
Exactement. Et la première étape, comme on disait tout à l'heure avec Maria, c'est de savoir, prendre conscience que ce pilote, que cette bulle d'amour existe.
Tout à fait. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire, Agnès, qu'il suffit de se connecter à soi et tout est résolu?
Alors, dans l'absolu, oui, Maria. Et d'ailleurs, je lance un grand appel, hein, si quelqu'un nous écoute, il y a une technique qui nous permet d'être connecté 24/24 et d'être bien, d'être en contact avec notre pilote 24/24. Surtout, manifestez-vous tout de suite là dans le chat. Je suis preneuse et puis
oui.
Je vous paye. Hein. Il y a pas de soucis, je suis généreuse, il n'y a pas de problème.
Alors le chat est fermé pour l'instant, mais vous nous mettrez à la fin et vous en ferez un mail à Agnès.
Voilà,
et à moi, ça m'intéresse aussi.
Mais voilà, malheureusement, on est endormi. Et on est en pilotage automatique, hein, ça je l'ai dit et je le redis, mais c'est vraiment important, depuis 30, 40, 50, voire plus. Donc tout le travail consiste à se réveiller, à se reconnecter, à se déprogrammer. Et donc, Anthony de Mello a une belle façon de le dire dans son livre « Redécouvrir la vie ». Il écrit « Les Chinois ont une belle façon d'exprimer cela. Quand l'œil n'est pas obstrué, il y a la vue. » Vous n'avez rien à faire pour obtenir la vue. De même, quand l'esprit n'est pas obstrué, vous obtenez la vérité. Et quand le cœur n'est pas obstrué, il en résulte, la joie et l'amour. Donc pour de vrai, hein, comme dirait Louise, vrai, hein, il n'y a rien à faire pour obtenir la joie et l'amour. Juste désobstruer son cœur.
Oui. Est-ce que tu dirais que tout est déjà là? Il y a juste à enlever les couches qui nous coupent de ça?
C'est ça, exactement. C'est vraiment écoper, comme je disais dans ma dernière conférence.
Oui.
Enlever les couches qui nous empêchent. On va le voir après, hein, mais c'est justement enlever ce qui nous empêche d'être en contact avec ce pilote. On est la cause de l'obstruction. On est la cause de notre coupure par notre identification mentale. Et notre mental a peur, hein, parce que on lui a donné le pouvoir et il n'a pas du tout envie de le perdre. Donc, il va lutter, attention, hein. Enfin, moi,
oui.
En tout cas, il est fort. Pas pour toi, Maria, mais moi, le mien,
Oui, il a des ruses, des fois. Alors, justement, comment faire pour désobstruer le cœur et redécouvrir la joie et l'amour qui habitent au cœur de nous?
Alors, justement, la bonne nouvelle, c'est que si on est la cause de l'obstruction, on peut aussi changer ça en nous. Donc, il suffit de se connecter, de désobstruer. Pour se connecter, donc, je vous ai donné un exercice qui ne prend pas beaucoup de temps. Et vous pouvez le faire et le refaire et le refaire. Je vous donnerai d'autres clés dans le bonus.
Et j'imagine que plus on le fait, plus ça va vite aussi.
Et plus on sait, plus ça va vite. Après, c'est une fraction de seconde. Hein. C'est vraiment génial. Et aussi, on va désobstruer. Alors pour ça, moi, mon outil de prédilection, et tant mieux pour ce soir, c'est l'EFT. Pour nettoyer, pour écoper tout ce qui nous empêche d'être là pour nous maintenant, l'EFT, c'est juste génial. Alors, il faut rappeler que l'EFT, c'est, pour Gary Craig, toute émotion, qui est le fondateur de l'EFT, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, toute émotion négative vient d'une perturbation du système énergétique corporel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout notre passé non digéré, par des blessures, des traumatismes et des peurs, mais aussi toutes nos peurs de l'avenir, la peur de la mort, hein, au hasard, par exemple, mais toutes les peurs de qu'est-ce qui va m'arriver demain, et si je restais seule toute ma vie, et si, etc., vont encombrer notre présent en nous empêchant d'habiter ce présent et d'être bien maintenant. Et tout ça, ça va nous couper de nous-mêmes. Et Gary Craig, il dit que ça fait des zuts. Ça fait des zuts qui nous coupent de nous-mêmes. Donc,
oui,
vraiment,
c'est comme une sorte de faux contact, comme un bug.
Voilà. Je ne sais pas si ça passe bien, mais moi, je le comprends. Merci de clarifier, Maria. Donc, en faisant de l'EFT, rien qu'en tapotant, on fait circuler. Parce que les points ne sont pas choisis au hasard. Je ne vais pas rentrer dans l'explication des points, mais vraiment, ils ne sont pas choisis au hasard. Rien qu'en tapotant, on fait circuler tout notre système énergétique corporel. Et avec la parole, on va aller cibler. Donc, on va aller vraiment, on va cibler un problème et en tapotant, on va l'enlever. Et c'est ça qui est vraiment génial avec l'EFT.
Oui.
Donc, on va rétablir le bon fonctionnement de notre système énergétique corporel et on va pouvoir habiter ce présent et du coup, notre pilote, il va pouvoir être là. Il va pouvoir se manifester. Donc, on va nettoyer, écoper, comme je disais dans ma dernière conférence, nos attentes et nos peurs. Pour ça, donc, il faut en prendre conscience. C'est tout le principe des séances d'EFT. Donc, soit vous faites le processus de paix personnelle, hein, c'est-à-dire vous prenez un papier et vous écrivez au moins 200 choses qui vous ont blessé et traumatisé dans votre vie, que suggère Gary Craig, et vous tapotez tous les jours sur tous ces points. Ça, ça va vraiment vous aider. Ou alors, vous pouvez faire des séances avec les thérapeutes. Hein, il y en a plein cette semaine autour de vous. Et on va travailler sur les peurs et les attentes. Alors, les peurs, c'est pas pour rien. Je sais pas pour toi, Maria, mais moi, mes premières séances, elles tournent souvent autour du père et de la mère. Mm-hmm. C'est pas qu'on en veut forcément aux pères et aux mères, mais c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils nous ont programmés. Parce qu'eux aussi, ben, ils n'étaient pas en contact avec eux non plus. Ils n'étaient pas en contact avec leur pilote. Ils ont été programmés par leurs parents eux-mêmes, et on peut remonter au début de l'humanité pour tous ces programmes. Donc on peut faire du transgénérationnel, voire du transarchaïque. On va tapoter aussi toutes les peurs de l'avenir, les peurs de la mort, les peurs de la séparation, les deuils, toutes ces peurs qui nous figent, qui nous limitent et qui nous empêchent d'être bien et en contact avec ce pilote-là. Mais aussi toutes les attentes, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui nous viennent des contes de fées et des mythes de l'androgynie. Peut-être ces contes de fées qui ont perdu leur sens maintenant, mais qui étaient peut-être plus initiatiques qu'on le pense, hein, et les mythes de l'androgynie aussi, qui au fond sont l'idée de rechercher à l'intérieur de nous, reprendre notre pouvoir au lieu de le donner à l'extérieur, et trouver à l'intérieur de nous ce qu'on cherche à l'extérieur. Donc tout ça, c'est vraiment le principe de ce qu'on fait en séance de FT. Donc on va aussi, comme je le disais tout à l'heure, travailler sur la relation de notre première relation à notre mère, qui est une relation où on attend tout du monde extérieur. On attend que l'autre me remplisse et en contrepartie, on est prêt à se fondre, à se perdre en lui ou en elle. Je ne sais pas si ça résonne pour certains, mais moi ça résonne pour mes premières histoires d'amour en tout cas.
Oui.
Et immanquablement, comme nous le rappelle Jean-Yves Leloup, on est déçu à la hauteur de nos attentes. Donc, il faut bien les nettoyer. Donc, c'est cette double ambiguïté entre nos attentes, aime-moi à ma place, et nos peurs, tu vas me faire souffrir, alors la porte est fermée, entre la volonté de fusion et la volonté de séparation, qu'on va pouvoir travailler soit seul avec le FT, soit en séance. Et ça va permettre au pilote de pouvoir être vraiment présent.
Oui, et au passage, je dirais que si vous voulez vraiment aller vite, je crois qu'il faut faire les deux.
Là, je suis bien d'accord. C'est vrai qu'en séance, il se passe plein de choses. Et je ne sais pas pour toi, Maria, mais En tant que thérapeute, on continue aussi à travailler avec des collègues,
parce que
ça va tellement plus vite à deux, avec un miroir en face de toi, et qui nous laisse pas fuir.
Oui, et puis comme je dis, le meilleur masseur du monde, il peut pas se masser le dos.
Exactement. Et tout ce nettoyage, ça va nous permettre donc de laisser notre pilote être, mais aussi de devenir vraiment adulte. Alors, Maria, pour toi, qu'est-ce que ce serait de devenir adulte?
Ça, c'est une grande question.
Ok, je sais.
Que tout le monde peut peut-être se poser aussi, en même temps.
Oui, je la pose souvent à mes patients, ils aiment
ouais.
pas d'ailleurs.
Ben, une définition de devenir adulte, pour moi, ce serait de nettoyer justement tous ces bagages émotionnels et vraiment faire la paix avec son passé.
Alors, c'est une très belle définition et comme on vient de le dire, c'est vraiment pas facile de répondre à cette question. Pour Thierry Janssen, un adulte, c'est un enfant qui n'a plus peur. Donc, tu vois, Maria, on est par la même longueur d'onde. Et pour moi, c'est aussi intégrer le rôle du père et le rôle de la mère en soi. La mère, celle qui nous aime inconditionnellement et qui nous donne sa reconnaissance. Le père qui va poser les limites, nous protéger et nous donner aussi sa reconnaissance. Donc, quelque part, les intégrer, c'est les équilibrer en nous, retrouver cet équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang, cette complétude androgyne du départ qu'on recherchait, et cette princesse endormie à l'intérieur de nous. Trouver ses ressources en nous plutôt que les demander à l'autre, et demander à l'autre de les combler à l'intérieur de nous. Alors, je vais vous proposer un petit jeu, je ne sais pas si c'est par contre, Maria.
Bien, bien sûr.
Pour voir si vous avez des choses à nettoyer ou pas. Donc, on va tapoter sur le point karaté, juste le point karaté, ça suffit. Donc, le point qui est sur le poignet,
le côté de la main, ouais.
En disant, j'ai besoin d'un homme ou j'ai besoin d'une femme, vous remplissez selon ce qui est, que vous cherchez. Mm-hmm. Parce que pour, donc je répète, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme, parce que pour.
Donc, dans un premier temps, on termine la phrase dans notre tête, parce que, et ensuite, pour quoi faire.
Exactement. Juste, vous voyez, la première chose qui vous vient en tête. J'ai peur des femmes, j'ai peur des hommes, parce que.
J'ai peur des hommes, j'ai peur des femmes, parce que.
La première chose qui vous vient en tête. Bon, plus facile, mais bon, j'ai bien dit que c'était un jeu au départ. Hein. Tous les hommes sont des...
Ah.
Toutes les femmes sont des...
Ah oui, c'est vrai.
Évidemment, tout le monde va finir des phrases par princesse et prince charmant, évidemment.
Oui, oui, voilà. Merci de donner les bonnes réponses.
Voilà.
On ramassera la copie à la fin.
Exactement. Vos réponses sont super positives, c'est génial. Sinon, vous voyez que vous avez peut-être des petits stéréotypes qui demandent un petit écopage, un petit nettoyage. Et ça encore, vous pouvez le faire seul ou en séance pour mieux vous connaître et vous alléger de ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'on a des stéréotypes qui nous viennent de notre culture, et ça c'est des programmes aussi, qui nous viennent de notre famille, qui nous viennent de nos ancêtres, qui nous viennent de Cro-Magnon et de Cro-Magnon. Mais on va pas rentrer là-dedans, sinon on va pas s'en sortir.
Mais c'est vrai que ça peut remonter à loin, et le fait d'enlever ce qui n'est pas à nous, ça allège et ça libère beaucoup.
Et ça désobstrue le cœur, puisque c'est le but de ce qu'on cherche à faire. On va savoir quels sont nos besoins, nos attentes, nos limites et nos peurs. En se reconnectant à nous-mêmes, on va retrouver cette unité qu'on recherchait à l'extérieur et qui est toujours à l'intérieur. On va voir que l'amour et la joie sont là, toujours présents, toujours disponibles. Et on va trouver cette unité qu'on cherchait dans la fusion. Mais se connecter à soi, c'est un choix, c'est une discipline d'attention pour être présent et conscient et pour lâcher nos vieux programmes, c'est une reprogrammation, comme on l'a dit avec Maria. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais encore une fois, je vous attends dans le chat, si vous avez la solution miracle. On est tous preneurs. Donc évidemment, comme c'est un chemin, Lors de ce chemin, je vous invite à être indulgent et bienveillant envers vous-même. Et c'est peut-être une des premières étapes sur le chemin. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à marcher, l'adulte qui va en être responsable va pas lui dire à la première fois où il va tomber, tu sauras jamais marcher, t'es vraiment stupide, t'es débile. Donc, si on retourne en pilotage automatique, si on s'endort, eh ben, ne nous jugeons pas et soyons indulgents et bienveillants avec nous sur ce chemin.
Mais alors, ça voudrait dire qu'on peut tous devenir totalement autonomes et indépendants. On n'aurait plus besoin de l'autre?
Alors, c'est pas vraiment ça que je veux dire, hein. Je veux dire qu'en travaillant sur soi, en étant plus connecté à soi-même, on est responsable de sa vie et de ses besoins. On ne pose plus une attente démesurée et injuste sur l'autre, qui va être source de déception, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut aimer sans dévorer ou être dévoré, comme nous le rappelle Lita Bassé. Et ça ne veut pas dire se replier sur soi-même ou être autosuffisant. Il y a une branche de japonais qu'on appelle les herbivores. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Maria.
Non, je ne connais pas ça, non.
Alors, les herbivores, j'ai découvert ça en préparant ma conférence. Ce sont principalement des hommes entre 20 et 30 ans qu'on appelle les herbivores parce qu'ils ne s'intéressent plus à la chair. Donc, ils ne s'intéressent pas à l'idée de former un couple ni au sexe. Et donc, c'est des nouveaux narcissiques. Ils sont complètement centrés sur eux et sur leur propre plaisir, mais leur plaisir, ça va être jouer à des jeux vidéo et chanter dans des karaokés, par exemple. Alors, c'est certainement très caricatural, hein, parce que j'ai pas fait une recherche poussée sur ces herbivores, mais c'est vraiment pas le but, hein. Le but, c'est pas de devenir des narcissiques qui, voilà, ne va pas chercher l'autre à l'extérieur, mais qui pense s'être trouvé dans sa propre contemplation. Mais c'est trouver un juste milieu, parce qu'il faut rappeler quand même que l'humain est un être de relation. Un bébé humain qui ne va pas être touché par sa mère ou par un autre humain va mourir. Et même notre cerveau est un cerveau social. J'ai lu plein de choses dans votre cerveau n'a pas fini de vous détonner. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. On a des neurones miroirs, des neurones qui miment. Et notre cerveau se développe au contact des autres. Donc, bien évidemment, non. On a besoin des autres, on a envie des autres, mais c'est plus aimer ne signifie plus être dépendant et être attaché à l'autre, mais aimer devient partager cette sensation qui nous habite pour s'exponentialiser à deux. C'est plus la moitié et la moitié de tout à l'heure qui deviennent un quart, hein. C'est être entier et être entier. L'amour devient l'alliance entre deux entiers qui partagent, plus besoin de l'autre mais envie de partager, comme nous le rappelle Jean-Yves Leloup. Et il dit aussi, le bonheur commence quand on ne demande pas à l'autre de nous rendre heureux.
Mmh. Donc, si je comprends bien, nous venons de travailler le premier C. C comme se connecter à soi. Et comment passer à l'étape suivante? Comment nous connecter va nous aider à mieux communiquer? C'est ça le deuxième C, hein, la communication.
Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais au tout début de la rencontre, tout va bien. C'est un peu cuit-cuit les petits oiseaux. Un plus un égale un. On fusionne, on se découvre, on a l'impression que les autres ne connaissent pas cet amour qui nous transporte, nous fait sourire, nous fait chanter. Et puis, plus ou moins vite, un plus un égale trois. Il y a deux personnes et puis il y a la relation. Et dans la relation, il y a comme on l'a vu tout à l'heure, on peut remonter loin. Il y a les quatre parents et tous les ancêtres derrière.
Oui.
Et quand on est en pilotage automatique, cette phase, ça devient la phase des jeux émotionnels. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, notre mental va juste réagir au programme qu'il a à l'intérieur de lui. Donc il va réagir en prenant le programme le plus adapté.
Mmh.
Et ça devient la phase des jeux émotionnels où tout le monde perd. La phase du dernier mot.com, je connais bien. Je suis un peu une professionnelle. Et la phase de l'enfer, c'est les autres, comme nous le rappelle Tarzan. Mm. C'est la phase du fameux triangle de Cartman. Alors, je ne sais pas si tu connais ce fameux triangle de Cartman.
Oui, pour simplifier, c'est le triangle du victime, bourreau, sauveur, c'est ça?
Exactement. Alors, moi, je
découvert... Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas, tu vas nous le détailler un peu?
Oui, bien sûr. Moi, j'en avais entendu parler depuis quelques années, et puis je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, ce fameux triangle de Cartman, qui est donc un triangle dramatique, c'est une figure d'analyse transactionnelle qui est proposée par Stephen Cartman, un psychologue américain. Donc, il a développé ce triangle en 1968 et il décrit le scénario relationnel typique entre, comme tu l'as dit, Maria, la victime, le persécuteur et les sauveurs. Ce sont des rôles symboliques, car on n'a pas besoin d'être trois pour y jouer. À deux, ça suffit amplement. Une même personne peut même jouer tous les rôles. Et d'ailleurs, si une personne utilise un de ses rôles, par exemple la victime, elle va forcément entraîner l'autre à jouer le rôle complémentaire, le sauveur ou le persécuteur. Ce sont les trois rôles qu'on se partage pendant une dispute. Persécuteur, sauveur, victime. Je vous laisse un peu le temps d'y penser, je vais l'illustrer, et vous verrez un peu plus comment vous êtes des professionnels de ce triangle sans même le savoir. La victime, et ça m'a surpris, mais finalement c'est vraiment évident, la victime c'est le rôle le plus fort. Et donc c'est celui que tout le monde cherche à obtenir. Et on va voir encore dans les exemples pourquoi. Le rôle du persécuteur, c'est le parent normatif négatif en analyse transactionnelle. Donc j'ai repris le mot, pas pour faire de l'analyse transactionnelle, mais parce que parent normatif négatif, je trouve que ça parle pas mal. Il rabaisse, il humilie, il s'imagine dominer les autres. Mais la victime va se rebeller ou un sauveur va venir à son secours. Dans les contes de fées, c'est le rôle de Cruella.
Mm-hmm. Ou de la méchante belle-mère.
Ou la méchante belle-mère, voilà. Mm. Le rôle du sauveur, c'est de parent nourricier, mais le parent nourricier négatif. Il va aider les autres, mais sans qu'on lui demande. Et il va rendre les autres dépendants de lui. Et passif. Et on finit toujours par en vouloir à celui dont on dépend. Et ça, c'est le prince charmant.
Mm-hmm. Avec le cheval blanc et tout le décor.
Ça. Et le rôle de la victime, alors là, il y en a deux. Il y a la victime soumise, qui est l'enfant adapté soumis négatif. Alors lui, il va amorcer les points faibles du sauveur en se faisant passer pour plus faible qu'il n'est. Et ça vient souvent d'une peur de manquer. Et la victime rebelle, qui va être l'enfant adapté rebelle négatif. Lui, il va amorcer les points faibles du persécuteur. C'est l'agressif, il revendique, il réclame, souvent associé à la peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. C'est Calimero. C'est aussi un peu la princesse, hein, parce qu'au départ, elle s'est passée pour plus faible qu'elle n'est, hein, donc elle est dans le rôle de victime soumise. Et puis après, elle devient un peu victime rebelle. Elle réclame, elle est jamais contente, elle râle. Donc la victime va se poser en enfant et le persécuteur et le sauveur en parent. La relation ne peut pas être équilibrée ou égale. Ce triangle, il ne peut tenir que par la peur et par le pilotage automatique. Je vais vous donner un exemple extrême de ce triangle. Une personne vient me voir un jour pour me demander de l'aide afin de quitter son mari. Il y a 25 ans, notre belle princesse rencontre son prince. Il est beau, il est surtout gentil et très attentionné. 25 ans plus tard, deux enfants, le sauveur s'est transformé en persécuteur. Ça fait des années qu'il lui fait constamment des reproches. Elle gagne pas assez d'argent, elle l'ennuie. Elle. Elle se décide donc à partir. Elle cherche un appartement et prend son courage à deux mains et lui parle. Et là, la princesse devient persécuteur. En bon persécuteur, notre prince commence par lui dire qu'elle a deux jours pour disparaître. Puis le persécuteur se transforme en victime et il tente de se suicider devant ses enfants et devant elle. Notre princesse est maintenant terrorisée par son prince. Et quoi faire? Si elle part terrorisée, elle ne pourra pas être bien. Si elle reste terrorisée et en colère, elle ne pourra pas être bien. Si, pour lui, si elle reste en colère et terrorisée, il ne peut pas être bien. Et si elle part, il menace et il n'est pas bien. Donc dans l'absolu, il gagne parce que c'est la victime absolue, hein, quand même. Mais dans la réalité, est-ce qu'il gagne vraiment? À mon avis, non, tout le monde perd. Donc c'est un peu le principe du triangle de Cartman. On va le voir après dans une dispute, hein, ce que ça donne dans une dispute, mais c'est vraiment l'idée. Quand on passe de l'état amoureux au jeu émotionnel, on rend l'autre responsable de notre malheur. On veut soit le contrôler, soit le fuir. C'est plus de l'amour, c'est de l'attachement, et on devrait dire « je suis attaché à toi ». Et on voudrait que l'autre change pour redevenir celui qu'on a aimé et pour être bien soi-même, celui qui nous a fait être bien il y a si longtemps. Anthony de Mello, dans son livre « Quand la conscience s'éveille », nous donne un très joli exemple que j'ai mis du temps à comprendre. Alors, je vais vous dire lentement. Imaginez un malade qui va voir un docteur et qui lui explique de quoi il souffre. Le docteur lui dit, très bien, j'ai interprété vos symptômes. Vous savez ce que nous allons faire? Je vais prescrire un médicament à votre voisin. Merci beaucoup, docteur, je me sens déjà beaucoup mieux, répond le malade. Anthony de Mello continue, n'est-ce pas absurde? Mais c'est pourtant bien ce que nous faisons tous. La personne endormie s'imagine qu'elle va se porter mieux si quelqu'un d'autre change. C'est vous qui avez besoin de changer. C'est vous qui avez besoin de médicaments.
Mmh. Oui, c'est intéressant. Alors, Agnès, comment faire pour sortir de ces jeux qu'on connaît bien chez nous et autour de nous, surtout chez les voisins,
hein? Exactement.
Et qui font de nos couples des prisons potentielles, des prisons d'ennui et de blessures. Comment sortir de ce triangle?
Est-ce que tu te souviens de l'intervention de Marc et de René l'année dernière sur le couple?
Mmh.
Ce couple qui dure depuis 20 ans. Leur secret, c'est d'utiliser le couple comme un laboratoire. Et moi, j'aime beaucoup cette formulation.
Oui.
Pour ça, il faut être présent et comprendre que chaque dispute nous fait rejouer des blessures et des programmes, ou alors des peurs de l'avenir. Et voir l'autre comme un miroir. L'autre, c'est un miroir de ce que j'aime, mais aussi et surtout de ce qui me dérange en moi. Et donc, ben voilà, comme me disait Anthony de Mello, c'est à moi de prendre le médicament. Et dans ce cas-là, le couple devient un laboratoire pour évoluer. L'autre, c'est entre guillemets mon maître spirituel, la personne parfaite à ce moment-là pour me faire travailler ce que j'ai à travailler. Chaque incompréhension, chaque colère, chaque frustration, chaque jalousie, chaque trahison, j'ai bien dit chaque incompréhension au début, devient une opportunité pour mieux nous connaître nous-mêmes et pour lâcher ses peurs, communiquer avec son cœur et non pas avec son mental et ses émotions. Comme nous le rappelle Frédéric Lenoir, la qualité de nos relations aux autres dépend intrinsèquement de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Alors, pour développer notre relation à nous-mêmes, on a bien vu qu'il y avait l'exercice où on met les mains sur notre plexus solaire, et puis tous les soyez désobstrués avec l'EFT. Et une fois connectés à nous-mêmes, avec le présent, avec cette partie qui n'a pas peur, on peut communiquer autrement. Et on peut, à ce moment-là, utiliser vraiment la relation comme une thérapie. Alors, on va reprendre l'exemple de notre princesse effrayée de tout à l'heure, et on va voir comment, après quelques séances de EFT, la situation s'est retournée. Elle a bien nettoyé son passé, hein, elle a fait tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ressenti la connexion en elle, et puis elle a décidé de rester un certain temps. Mais elle était libérée de la peur de son prince, et elle a pu être bien et posée avec elle-même. Elle a pu lui pardonner, car après tout, il l'a fait grandir. Il est parti pour la faire travailler. D'accord, il dormait, mais elle aussi dormait. Elle était en pilotage automatique et cette expérience lui permet de se réveiller, de contacter son pilote. Elle a pu lui dire ses attentes et ses besoins, on va voir comment après, et écouter les siennes. Quelque part, il a les mêmes. Des moments de complicité à deux, d'échange et de respect. Donc c'est parfait, ils sont d'accord. Ça fait pas très longtemps que cette personne qui est venue me voir a pris cette décision. Donc maintenant, on va voir si les deux peuvent avancer, leur couple va repartir de cette crise. Sinon, ils se sépareront en adultes et sans peur.
Oui, et personne n'aura besoin de faire des menaces ou de se suicider devant tout le monde.
Exactement. Mmh. Voilà, de pleurer ou de se perdre soi-même en ayant l'impression qu'on s'est fait arracher une partie de soi-même. Alors, je vais vous donner un exemple un peu plus soft. Lors d'une dispute de couple, on va tapoter ensemble si vous voulez bien. Et puis, vous allez donc, en faisant ça, essayer ce que j'ai mis en place grâce à ma pratique et que j'ai appelé les CAPS. CAPS, c'est connexion, attente, pardon et solution à venir. Et puis, je vous expliquerai un peu plus longuement après ce que ça veut dire.
D'accord.
Alors, je vous propose à tous de prendre la dernière dispute que vous avez vécue avec votre conjoint, si possible, une colère, par exemple, ou la première qui se présente à vous. Si vous êtes célibataire, pas de panique. Vous avez bien des collègues, des amis ou des parents. Donc, il y a certainement moyen d'imaginer une dispute. Si possible, pas avec des enfants, parce qu'avec des enfants, c'est un tout petit peu différent. Et puis, nous, on va le faire avec Maria en bénéfice partagé. Donc, le bénéfice partagé, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez prendre votre situation, vous allez l'écrire sur un papier, on va prendre le temps de faire ça tranquillement, et puis vous allez vous asseoir dessus pendant que Maria et moi, on tapote sur une autre situation. Mais en faisant ça, vous allez avoir les bénéfices partagés de notre situation, et puis après, on verra où vous en êtes en ressortant votre papier ensuite. Alors là, vous pouvez donc prendre un papier, un stylo, interrogation écrite.
On se rigole. Oui, ça y est, on y est.
Vous pouvez vous raconter la scène.
Oui, là, pour gagner du temps, notez peut-être juste quelques mots-clés.
Oui, voilà, revoir la scène.
Vous l'avez bien en tête, sûrement, cette scène. Donc, vous
voilà,
notez juste...
Nommer l'émotion et la quantifier entre 1 et 10. Et donc là, vous allez donner un titre à cette scène. 10 étant le maximum, 0 c'est j'ai pas d'émotion. Et là, vous allez quantifier l'intensité de votre émotion sur le papier. Et puis, vous allez vous asseoir sur ce papier.
Et là, je dois vous dire, oui, elle veut dire réellement mettre le papier sous vos fesses, sur la chaise. Asseyez-vous dessus. C'est pas du figuré. Il faut le faire.
Au sens figuré, c'est une façon de s'asseoir sur son problème et c'est toujours une bonne chose à faire. Ça donne un peu de distance.
Voilà, ça montre qui est au-dessus.
Exactement. Et maintenant, vous allez suivre notre exemple et tapoter. Alors, on va prendre une colère que j'ai ressentie, moi, en préparant cette conférence et que j'ai dépassée grâce au CAPS. Alors, je vous explique. Un matin, suite à un comportement de mon fils, qui était particulièrement dur depuis quelques jours, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la goutte d'eau, et ça y est, je suis en colère. Et je dis à mon ami, qui accessoirement n'est pas son père, que je ne sais plus comment dire les choses à mon fils, et que j'en ai vraiment marre. Et lui, il me dit qu'il en a marre aussi. Ce qui me met encore plus en colère. J'interprète ce qu'il me dit, qu'il n'a pas envie d'être là pour nous, et que ce n'est pas son problème. Alors je lui réponds, mes amis me disent que tu ne vas pas supporter tout ça et que tu vas partir. Lui interprète ma phrase, elle n'a pas confiance en moi. Et nous nous retrouvons en plein triomphe de Cartman à se battre le rôle de victime et à se blesser l'un l'autre. J'avais enfin rattrapé le rôle de victime, mais alors vraiment de justesse, quand mon ami me dit, ça fait 15 jours que tu me demandes de t'aider à trouver un exemple de colère pour ta conférence, ben le voilà ton exemple. En plus, c'est parfait, c'est la victime du triangle, donc t'as plus qu'à prendre des notes. Ça, c'était une vile façon de sa part de prendre la place de victime.
Et mais... voilà, tout s'est calmé et ils vécurent heureux tout le reste de leur vie, c'est ça?
Et non.
Ah, juste.
Non, parce que c'était quand même en colère, hein, faut le rappeler.
Oui.
Donc, j'ai trouvé ça vile, mais ça m'a déjà donné un petit peu de distance. Hein. Bon, moi, de mon côté, j'étais en train de me dire... Bon, ok, je suis la victime, c'est cool, j'ai la bonne place, mais qu'est-ce que j'en fais? À part prendre des notes, parce que j'avais eu la même idée. Donc, j'étais en train de faire de l'EFT, donc je tapotais sur le point karaté, et je vous invite à le faire avec moi, Maria et vous qui écoutez.
Mm-hmm.
Et donc, silencieusement, voilà ce que j'étais en train de me dire. Même si je suis en colère, je m'aime.
Même si je suis en colère, je m'aime.
Je ressens une colère, une alerte, mais je ne suis pas cette colère.
Je ressens une colère, une alerte, mais je ne suis pas cette colère.
Même si j'aurais voulu qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise qu'il était là pour nous, je m'aime.
Même si j'aurais voulu qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise qu'il était là pour nous, je m'aime.
Même si j'attends de lui qu'il me donne ce que je pourrais trouver en moi.
Même si j'attends de lui qu'il me donne ce que je pourrais trouver en moi.
Le calme, la confiance.
Le calme et la confiance.
Et que je lui en veux de ne pas me prendre dans mes bras pour m'y aider.
Et que je lui en veux de ne pas me prendre dans ses bras pour m'y aider.
Oui, dans ses bras.
Oui. Chacun ses bras.
Mon attente et du coup mes agressions ne sont pas justes.
Mon attente et mes agressions ne sont pas justes.
Sur le moment, c'est pas agréable à se dire. Hein.
Oui, oui, mais j'ai quand même raison.
Je peux me pardonner de ma réaction et je peux lui pardonner.
Je peux me pardonner de ma réaction et je peux lui pardonner.
Nous sommes tous les deux endormis dans notre pilotage automatique.
Nous sommes tous les deux endormis et en plein pilotage automatique.
En plein. Donc il est parfait pour me faire travailler ce que j'ai à travailler.
Il est parfait pour me faire travailler ce que j'ai à travailler.
Donc je vais lui pardonner pour moi être bien.
Je vais lui pardonner pour moi me sentir bien.
Alors là, en disant le pardon, hein, ça efface un peu la colère déjà, et je me dis que je l'aime, que lui aussi il m'aime, et que je n'ai pas clarifié ce qu'il m'a dit. Alors à haute voix, à ce moment-là, donc avec mon ami, tout en continuant à tapoter sur le point karaté, hein, pour me soutenir, pour être là pour moi, je lui dis « Je suis désolée d'avoir été agressive, mais quand tu m'as dit « moi aussi j'en ai marre », je me suis sentie menacée, et j'avais vraiment besoin que tu me prennes dans tes bras. »
Donc ça, tu lui as dit à lui?
Ouais, ça je lui ai dit à lui.
D'accord. Alors, je continue à tapoter, mais je préfère écouter ton histoire.
Ouais. Et lui, il m'a répondu, parce que du coup, le fait que moi, je me sois posée, ça l'a posé lui aussi, hein. Ouais. Donc lui, il m'a répondu, bah oui, mais quand tu m'as dit que tes amis pensaient que je n'avais pas supporté ça, je me suis vraiment sentie jugée et j'avais besoin de sentir ta confiance. Donc là, je lui ai répondu tout en tapotant. Mes amis pensent que tu prends ton rôle très au sérieux et elles sont super impressionnées, mais c'est vrai que parfois elles se demandent si c'est pas un peu trop pour toi. Et moi, j'avais vraiment besoin que tu me prennes dans tes bras. Et à ce moment-là, donc dans la dispute, hein, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Tu sais Agnès, c'est le matin et c'était vraiment pas facile pour moi de me positionner. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour me recentrer, pour ensuite être pleinement là pour toi après. Je fais vraiment de mon mieux. » Et là, je lui ai répondu, une autre fois, c'est déjà face à mon fils, qui serait bon que je me reconnecte à moi-même, ça éviterait toute la suite. Et sinon, dès ta phrase, moi aussi j'en ai marre, je me reconnecterai et je te demanderai de clarifier. Et voilà, et là, on a fini dans les bras l'un de l'autre, grandi par cette discussion. Je me suis rendu compte que de mon agressivité et de mes attentes, et qu'une fois de plus, je n'étais pas connectée, hein, parce que, encore une fois, appel, si vous avez une solution pour être connectée 24h/24, pas de soucis. Et j'attendais à ce moment-là donc que la connexion vienne de l'autre.
Oui, mais au moins quand cette vieille peur, j'ai envie de dire, s'est pointée de nouveau, assez rapidement, bon, avec ses conseils, hein, bravo lui, tous les deux, vous vous êtes mis à tapoter et vous avez pris un pas de recul pour voir ce qui se jouait vraiment.
Exactement.
Donc la connexion devient quand même de plus en plus facile, de plus en plus rapide.
Voilà, plus facile, plus fluide, on peut exprimer ses attentes et on peut être là pour soi, exprimer ses attentes. Je vais vous expliquer plus en détail, hein, donc le CAPS, mais ça permet, toutes ces étapes, ça permet de vraiment, voilà, changer le cours de la discussion plutôt que d'être en triangle de Cartman, parce que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a aucune issue au triangle de Cartman.
Non.
On amorce le persécuteur qui amorce la victime, qui amorce le sauveur, qui amorce, et on tourne en rond.
Exactement.
Quand on attrape le rôle de victime, on est content, mais bon, comme on vient de le voir, c'est facile à rattraper le rôle de victime.
Oui. Alors, le temps passe, Agnès, on va peut-être passer, là on vient d'appliquer le CAPS, est-ce qu'on peut passer directement aux explications détaillées sur le CAPS, parce que ça.
Ah oui, alors juste avant
de savoir exactement ce qu'on a fait.
Je voudrais juste avant que les autres reprennent, enfin ceux qui nous écoutent, reprennent leur papier pour voir où vous en êtes de la situation que vous aviez posée sur votre papier. Et donc de revoir, voilà, relisez votre titre et voyez où vous en êtes au niveau de l'intensité. Dans la majorité des cas, l'intensité aura baissé par bénéfice partagé. Mais si au contraire l'intensité a monté, ben c'est très bien aussi. Ça veut dire qu'on a pointé une blessure qui mérite d'être travaillée. Vous pouvez soit revoir cette scène tout seul en EFT, soit vous faire accompagner d'un professionnel. Et puis voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que les CAPS. Donc on a vu dans une dispute, si vous pensez aux CAPS, connexion, attente, conscientisée et exprimée, pardon, solution à venir. Ça va rendre les choses plus faciles. Ça va vous permettre de sortir du triangle de Cartman.
D'accord.
Alors, en faisant mes recherches...
Le C pour connexion.
Voilà.
C'est la connexion à soi, comme on a vu tout à l'heure.
Oui. A pour attente, conscientiser et exprimer. P pour pardon. Et S pour solution à venir.
Mm-hmm.
Alors, en faisant mes recherches pour cette conférence, je me suis rendu compte que il y avait plein d'autres personnes, hein, qui avaient mis au point des sigles et des choses dans ce style-là. Et moi, ce que je rajoute vraiment particulièrement, qui est vraiment le fruit de ma pratique, c'est le pardon et le EFT, évidemment.
Oui.
Alors, un rappel important avant de bien voir le C, A, le P et le S, c'est que les émotions, elles ne sont pas négatives. C'est nous qui les jugeons comme telles. Une émotion, c'est un radar qui nous alerte que nous devons réagir à quelque chose. Si on est en pilotage automatique, Cette alerte va faire réagir mon vieux programme. Et c'est pas moi qui réagis, c'est le programme de ma mère face à mon père. Si je suis connectée à moi-même, je peux prendre la responsabilité de ce qui m'arrive, être là pour moi et utiliser cette énergie de la colère pour exprimer mon besoin et réparer la blessure du passé ou la peur du futur. Thierry Janssen dans Vivre en paix nous dit, quand on est en colère, c'est parce que nous souffrons, nous ressentons un manque ou une peur. Cela nous appartient en propre. Il n'y a donc jamais lieu de punir l'autre en déchargeant sur lui agressivité et notre agressivité et notre violence, ni de tenter de le culpabiliser, ce qui serait de la manipulation. Donc dans une dispute, il y a plusieurs éléments qui viennent se catapulter en même temps, hein, et c'est ça qui est difficile, c'est que tout arrive en même temps. Il y a une émotion souvent subie, des attentes ou des besoins non conscientisés et non exprimés, et une peur. Alors là, mon émotion, c'était la colère. L'attente, c'était qu'il me prenne dans ses bras. Moi, je rentrerai pas dans les détails, mais ça, je vais vous l'expliquer aussi dans mon PDF. C'est que on a tous un langage de l'amour. Et moi, mon langage de l'amour, c'est un langage physique. C'est-à-dire que j'ai besoin de contact physique. Mais j'ai pas le temps, là, dans la conférence, de rentrer dans les 5 langages de l'amour. Donc, je vous donnerai ça dans mon bonus. Et ma peur, c'était qu'il parte, parce que j'étais déconnectée de moi-même. Et donc, voilà, j'étais pas en confiance et j'étais pas bien. Et donc, soit on est en pilotage automatique et on va plonger dans le triangle de Cartman et dans les jeux émotionnels perdant-perdant, soit on redonne la main à notre essence et à notre pilote. Et pour ça, l'EFT, c'est magique. Parce que l'EFT va nous permettre la respiration, la fraction de seconde, quand on nous dit cette première phrase, même si je suis énervée, je m'aime, qui permet de ne pas plonger dans le triangle de Cartman et de faire un choix. Et le choix de, voilà, donc, et ce choix, ça peut être de vérifier nos caps. Alors, on va voir que en tapotant donc tout au long des caps, ça va nous permettre de les faire ressortir, de les conscientiser et d'accélérer tout le processus. Donc c'est pour connexion, hein, connexion à soi, parce que rien que le fait de dire même si je suis en colère, je m'aime, on prend conscience qu'on n'est pas cette émotion, on a une alerte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Le calme revient un tout petit peu, on reprend notre respiration, on ressent l'amour pour nous-mêmes et peut-être déjà un peu pour l'autre. Mais le conflit est là. Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui se passe? A pour attendre, conscientiser et exprimer. Donc toujours tout en tapotant, ça me permet de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce malaise? J'ai une attente envers l'autre. C'est quoi cette attente? Elle vient d'une blessure, elle vient de quelque chose à réparer. Donc on va essayer de verbaliser notre attente, verbaliser notre besoin. L'autre ne peut pas l'adviner. On aimerait bien, hein.
Et pourtant, justement, elle paraît tellement évidente pour nous qu'on ne se rend même pas compte que c'est une attente.
C'est clair.
Là, ce serait vraiment normal que tu me prennes dans tes bras.
Exactement.
Mais en fait, il est pas au courant.
Voilà, l'autre ne peut pas l'adviner pour nous.
Oui.
Et est-ce que je pourrais, moi, la combler en moi? Donc, on va faire un peu cet état des lieux, mais ça va très très vite, en fait. Hein. Plus on joue tête, plus ça va vite. Et on va aussi pouvoir écouter et vraiment entendre les besoins et les attentes de l'autre. Et voir s'il y a une peur sous-jacente, voir quelle peur est là sous-jacente. Donc ça va nous permettre d'identifier et d'exprimer clairement nos besoins sans agresser l'autre. Il sera bon dans cette phase-là d'éviter les « tu dois »,« il faut », »,« toujours », »,« jamais », »,« tu ne prends jamais dans tes bras », »,« tu fais toujours ça », »,« il faut », »,« tu dois ». Ça c'est vraiment des choses qui bloquent la communication et qui font partir l'autre dans le triangle de Cartman. Donc Isabelle Filioza dans l'intelligence du cœur nous dit que pour bien communiquer, on va commencer par dire « quand tu dis, je ressens ». Et donc je reprends ça dans les attentes conscientisées, on va dire « quand tu dis ça, ta 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 ta, moi je ressens ça, ta 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 ». Et moi je rajoute « j'ai besoin de ». Donc ça fait « quand tu dis ta 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 ta, je ressens ta 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 et j'aurai besoin de ta 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 ». Et on va clarifier en disant « quand tu m'as dit ça, ta 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 ta, moi j'ai compris ça, ta 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 ta. Est-ce que c'est bien ce que tu voulais dire ?» Et puis P pour pardonner, c'est pardonner à soi-même, d'hésiter entre la voie connue et tellement simple du triangle de Cartman et du pilotage automatique, pardonner à l'autre aussi qui est peut-être endormi. Et si on l'est, il a bien le droit de l'être aussi. Pardonner pour soi-même être bien. Pardonner pour se libérer de sa dette de haine. Pardonner car l'autre est parfait pour nous faire travailler ce qui nous reste encore à travailler, la preuve. Puisqu'on a une émotion qui vient nous faire réagir. Donc on a quelque chose à écoper. pour être encore mieux et pour être en contact encore plus facilement avec notre pilote. Pardonner permet de lâcher les résidus de colère, de sensations désagréables dans le corps. Ça nous aide encore une fois à désobstruer notre cœur et ça nous rend plus présents à la situation.
Et du coup, les solutions peuvent apparaître.
Et est-ce, voilà, pour solutions à venir. Donc, comment faire pour ne pas revivre cette dispute encore et encore à chaque fois? Donc, quand on en est à cette étape-là, il suffit de revoir la scène et se demander où est-ce qu'on s'est abandonné. Quand est-ce qu'on est parti en pilotage automatique? Et à ce moment-là, comment se reconnecter? Donc, se donner, réfléchir et se donner des conseils à soi-même pour se reconnecter quand on part en déconnexion. Donc, ça peut être mettre les mains sur le plexus, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ou tapoter. Et se dire vraiment, voilà, la prochaine fois, quand, déjà face à mon fils, je pourrais me reconnecter, mais sinon, quand mon ami va me dire une phrase qui ne me plaît pas, tout de suite, je tapote. Hein, tout de suite. J'attends pas d'être en plein séance de Cartman.
Oui.
Et je peux lui exprimer, comme je lui aurais exprimé mes attentes, il va avoir entendu aussi, et il va plus facilement et rapidement être là pour moi, et on va être là pour l'autre aussi. Et donc l'amour n'est plus une prison, où nous sommes programmés à revivre les mêmes souffrances et les mêmes défections, mais il devient vraiment une alliance entre deux libertés, entre deux sujets entiers, pour reprendre ta moitié de tout à l'heure. C'est ça que c'est Jean-Yves qui me le dit. C'est un amour qui nous fait grandir. Et dans ce cas-là, on peut être dans la gratitude envers l'autre, le remercier d'être là, de partager notre vie et de nous faire avancer. La relation devient un laboratoire, comme le disait si joliment Marc et René l'année dernière. Une relation sans crise, ça n'avance pas. Et le chaos, c'est l'énergie du changement. Il vient de bousculer. On peut donc le remercier de nous donner une opportunité d'avancer. Cultiver la bienveillance envers l'autre aussi et l'indulgence pour cette relation qui se renforce et se construit. On a décidé de cheminer ensemble, d'apprendre ensemble, de se réveiller ensemble. Maintenant, si les deux ne cheminent pas de la même façon, hein, parce que ça arrive, ça, parfois, on peut décider de se séparer, mais pas dans la colère ou la tristesse, mais seulement parce que ça sera juste. Si l'autre ne me convient plus, ben, je pars. Et puis, si l'un veut partir, eh ben, je le laisse partir. Khalil Gibran va nous dire, si vous aimez une personne, laissez-la partir. Car si elle revient, elle a toujours été à vous. Sinon, elle ne l'a jamais été. Encore une fois, vous seul pouvez vous abandonner. Il ne s'agit plus de besoin, mais de désir de partager et d'avancer en ayant confiance en la vie et en vous-même. Vous pouvez rester connecté. Thierry Janssen dans Vivre en paix nous dit qu'on peut remercier les autres. Remercier les autres, c'est reconnaître que les relations humaines sont une précieuse source de développement pour chacun de nous. Témoigner sa gratitude aux autres, c'est envisager la vie comme un travail collectif au sein duquel chacun a sa place.
Bon, alors, on va passer aux questions. Mais quelques mots pour conclure, Agnès, avant de passer la parole à nos auditeurs.
Alors, je vous avais promis deux faits, hein, au départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais promis connexion et communication. En fait, il y en a un troisième qui est caché. Il y en a trois. Hein. Il y a connexion, communication et le choix qui, je pense que vous l'aurez compris, est présent tout au long du processus et même lors du processus de EFT. Hein, Maria, quand à la fin d'une séance, on propose un choix, on va décider quelque chose, on va orienter notre intention vers. Donc, à tout moment, on a le choix d'être en pilotage automatique ou d'être en contact avec son pilote. Lors de toute dispute, on a le choix de vérifier nos caps. Et donc, pensez à vos caps. Connexion. Donc, C pour connexion, A pour attendre conscientiser, P pour pardon et S pour solution à venir. Et puis, pour finir, je vais vous laisser avec deux phrases parce que ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime bien les citations. J'en abuse peut-être un peu, mais bon.
Donc, c'est bon.
Donc Wayne Dyer, qui est un Américain et qui est dans un grand pont du développement personnel, qui nous dit « L'amour, c'est ce qui reste quand l'état de tomber amoureux s'évanouit. » Et puis le philosophe Gustave Thibon, philosophe français, qui nous dit « Mon âme est à l'amour ce que les poumons sont à l'air. L'air est inépuisable et ne se refuse jamais le premier. Seuls les poumons peuvent défaillir et cesser de respirer. » L'amour est donc toujours là, en profusion comme l'air, mais si nous sommes coupés de notre essence, si nous sommes dans notre mental, nous ne pouvons pas y avoir accès en nous et on ne peut donc pas le partager avec l'autre. L'amour n'est pas une émotion, c'est notre source. On ne peut pas aimer et avoir peur en même temps. Alors, aimons pleinement.
Oui, puisqu'il faut faire un choix, choisissons l'amour plutôt que la peur. Et pour ça, le FC sera notre compagnon. Merci beaucoup Agnès pour tout ce que tu as partagé. On va te retrouver dans le chat dans quelques instants et tu vas pouvoir répondre aux questions.
Avec plaisir.
Merci.
Merci Agnès pour toute cette générosité. Alors, pendant que les questions arrivent dans le chat et qu'Agnès se prépare à y répondre, j'ai juste une annonce à vous faire. Nous venons de mettre en ligne la page d'inscription pour la journée en salle dont on vous parle depuis mercredi.
Le 11 octobre.
Voilà, le 11 octobre 2014. À Paris aura lieu le symposium de EFT, où vous aurez l'occasion de rencontrer en vrai tous les experts de l'édition 2014, dont Agnès, qui sera présente. Je rouvre ta ligne téléphonique, Agnès.
D'accord, écoutez, merci pour tous vos commentaires. J'en avais lu un juste avant que la conférence commence, qui était Béa Soud, qui disait qu'elle avait 60 ans de vie commune, donc je veux bien un mail et un commentaire sur la conférence éventuellement. Béa Soud, si vous avez pu tenir le temps de ma conférence, parce que voilà, je dois avoir des origines méditerranéennes, mais je parle beaucoup. Donc,
hein, Maria. Félicitations à ce couple qui a duré 60 ans.
Ça. C'est clair, bravo.
C'est génial.
Donc, à part ça, je regarde un peu le chat là qui s'emballe, donc j'ai un peu du mal à regarder, mais j'ai déjà vu deux petites questions. Donc, la première, c'est de donner plus de rondes de nettoyage. Alors, je ne me rappelle pas quelle était la personne qui disait ça. Que je remonte pour voir.
Non, je vais te demander combien de rondes il fallait pour nettoyer.
C'est vrai que alors combien, ça dépend vraiment de la personne. Pour moi, vraiment l'idée là, c'est de, comme plusieurs personnes l'ont dit et Laurent hier aussi, c'est vraiment de voir l'émotion comme une alerte. Et dès qu'on a cette alerte rouge, de tapoter sur ce qui est. Donc première ronde, même si je suis en colère, je m'aime, ou même si je me sens pas bien, je m'aime. Donc ça, c'est la première ronde. Deuxième ronde, quelle est mon attente, quel est mon besoin? Parce que ça, on n'en a pas vraiment conscience. Est-ce que je peux pardonner à l'autre de dormir puisque moi, je dormais aussi? Et ensuite, quelle serait ma solution? Quelle est la solution? Est-ce qu'on peut en parler? Donc voilà, après, pour le nombre de rondes, ça dépend vraiment du contexte. Donc, je ne sais pas, Maria ou Noël, si vous avez d'autres réponses à ajouter par rapport au nombre, mais moi, c'est ça que je dirais.
Mais c'est comme le ménage à la maison, il faut le faire jusqu'à ce que ce soit fait.
C'est ça, et ça dépend depuis combien de temps on l'a pas fait. Donc, voilà.
C'est pas terminé, c'est pas fini.
Voilà, donc après, j'en ai vu une de Karine, il me semble, sur qu'est-ce que je pense d'un homme imprévisible qui a frappé sa femme deux fois, qui s'excuse et qui fait du mieux qu'il peut, voilà, étant donné qu'on parle du couple. Alors, ce que j'en pense, c'est que cette personne a peur, que cette personne a des attentes aussi et un besoin et qu'elle a du travail. Donc, ce que je pense, c'est que ce serait bien que cette personne fasse un travail, premièrement. Et deuxièmement, puisque c'est une femme qui pose la question, Karine, donc je ne sais pas si c'est la femme qui est en face de cet homme, mais pourquoi reste-t-elle? Quel est, elle, son besoin, son attente? Est-ce que c'est possible d'en parler? Et voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc déjà tapoter sur elle, quel est son besoin, quelle est son attente, qu'est-ce que cet homme vient remplir en elle, quelque part, qui fait que, malgré tout, elle peut accepter ça. Voilà, donc ça serait ma réponse pour cette question-là aussi.
Il y a une question, il me semble qu'elle fait un peu écho à celle-là, c'est du docteur Daniel. Et si le persécuteur s'entête à persécuter?
Si le persécuteur s'entête à persécuter, et ben si le persécuteur s'entête à persécuter et que nous on est en face, donc que la personne qui tapote et qui prend conscience de tout ça, elle donc est la victime, et ben est-ce que vraiment elle veut rester ou pas?
Oui.
C'est ça. Après, si le persécuteur veut continuer à rester en son rôle de persécution, c'est un peu ce que je disais à la fin. Si les deux ne veulent pas travailler ensemble, et ben, ça ne sert à rien de rester. Donc, on peut partir en ayant compris pourquoi nous, on a joué ce rôle-là, parce que c'est pas pour rien, généralement, qu'on joue ce rôle-là. Alors ça vaut le coup peut-être d'aller faire une longue séance, même si on est dans le rôle de victime. Parfois, on pense que c'est la personne violente dans un couple violent qui a besoin de travailler, et je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi que la personne qui reste en face et qui se fait persécuter a peut-être elle-même un besoin qui résonne. Et ce besoin est un besoin négatif, certainement, un besoin de s'autodétruire, un besoin d'avoir la reconnaissance de l'autre. Donc, ça serait bien de trouver sa propre reconnaissance, de lâcher ses pulsions à elle, peut-être un peu morbides, et de retrouver son pilote pour peut-être continuer ailleurs. Si elle commence ce chemin et que l'autre travaille aussi, il peut y avoir un travail ensemble.
Voilà. Tu seras probablement d'accord avec moi, l'EFT n'est pas là pour permettre à une victime de rester convenablement sans souffrir dans une position de victime.
Ah non, pas du tout. Pour continuer à endurer des violences.
Voilà. Pas du tout. Dans l'exemple que j'ai donné, la personne qui avait travaillé avec moi avait lâché ses peurs, donc elle n'avait plus du tout peur du persécuteur, donc elle n'était plus victime. Et c'est bien pour ça qu'elle est restée. Elle a décidé de rester pour ses enfants. Et parce que dans un premier temps, pour elle, c'était plus confortable, même financièrement. Mais elle avait plus peur. Et c'est ça qui changeait tout, en fait.
C'est ça qui change tout. Je crois que ça mérite de le préciser encore et encore et encore. Parce qu'il y a des personnes qui vraiment ont du mal à comprendre cette notion et nous disent, mais alors l'EFT, ça sert à rester dans une entreprise avec dans des conditions déplorables, ou dans des couples, dans des conditions qu'il est bon où il est bon de partir.
De partir, tout à fait, tout à fait. Et au contraire, la personne qui va venir travailler, voilà, l'issue, ça peut être quand on se retrouve soi-même et qu'on devient entier, on n'est plus dans la codépendance, justement. Et donc, on n'a plus besoin de rester juste pour retrouver un équilibre, soit. Oui. Mais voilà, on peut s'en aller.
On fait choix.
Ouais, exactement, on redevient libre, hein. C'est tout ça l'intérêt. Donc, j'ai vu une autre question qui était lors de l'exercice où on s'imagine dans les bras de quelqu'un. Peut-on imaginer que c'est une femme, même si on est une femme? Évidemment, on peut imaginer.
Oui, plusieurs personnes ont déjà répondu, mais bien sûr, le principal, c'est l'amour.
Tout à fait, exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Que faire pour quelque chose?
Que faire pour une question par rapport aux effets énergétiques. Voilà, Aruaya, l'EFT que je redécouvre est vraiment efficace. Vous parlez au niveau émotif, mais je voudrais dire que ça fonctionne bien au niveau énergétique également. Pourriez-vous nous expliquer les effets physiques? Justement, puisque tu es aussi acupunctrice...
Tout à fait.
Tu peux toucher quelques mots là-dessus, même si théoriquement les questions techniques, on réfère au kit de démarrage. Mais puisque tu as cette double compétence...
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, les points ne sont pas choisis par hasard. Les points, il y en a une vingtaine, et c'est le début ou la fin des méridiens d'acupuncture. Les méridiens d'acupuncture... Chaque point correspond à un méridien. Tous les méridiens sont bordés. Chaque méridien correspond à un organe. Chaque organe correspond à une émotion. Donc, sur le plan physique, on va calmer tout le côté émotionnel, mais également tout ce que gère cet organe. Et aussi, il faut dire que dès qu'on commence à tapoter, à peu près au bout de 30 secondes, on descend au niveau des ondes cérébrales. Et donc, on redescend dans un niveau de plus de niveau hypnotique. Et donc, on calme son cerveau. Ce qui fait qu'on peut retrouver le calme. C'est ça aussi l'intérêt. C'est pour ça que l'émotion qui vient nous prévenir comme un radar, comme on l'a dit plusieurs fois cette semaine déjà, on va plus y réagir par le mental et par nos vieilles façons de faire, mais en étant calme, on va pouvoir voir, tiens, j'ai une émotion, qu'est-ce qu'elle vient toucher en moi et quelle était mon attente. Donc, c'est ce calme qui est très important, ce calme physique et psychologique qui est provoqué par les points d'acupuncture, justement. Vraiment, le gros intérêt de l'EFT, c'est de calmer.
Oui.
Réharmoniser et calmer. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu d'autres questions, parce que c'est vrai que c'est compliqué de répondre et de
compliqué,
et de lire en même temps.
Oui. Ouais. Quand on répond à une question, on n'est pas en train de lire. Hein.
Alors, il y a plusieurs questions dans le sens que faire pour... attends, j'en cherche une. Que faire quand l'autre n'entend pas qu'on a besoin de faire ça pour soi? Je pense que l'exemple, c'est la femme veut utiliser cet exercice pour dire « quand tu me fais ça, ça me fait ci », et l'autre n'entend pas ça.
Oui, qu'elle entend, que l'autre l'entend comme un reproche.
Oui, ou comme quelque chose d'égoïste peut-être.
Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je suggérerais, c'est d'en parler à froid. C'est-à-dire que parfois, si on fait cet exercice-là lors d'une colère, ça peut fonctionner quand effectivement les deux considèrent le couple comme un laboratoire. Mais si c'est pas le cas, c'est bien de donner la règle du jeu quand, dans un moment de calme, j'espère qu'il y en a dans le couple, hein. Donc dans un moment où tout va bien, où la communication est fluide, on peut dire, ben voilà, je suis en train d'essayer de communiquer autrement, je suis en train d'essayer de changer ma façon d'être, est-ce que tu peux m'aider, me supporter, me soutenir dans dans ce changement? Et donc, voilà, ce qui fait que si je te dis des choses un peu bizarres lors de la prochaine discussion, eh bien, peut-être que c'est, voilà, peut-être que toi, tu peux ne pas y réagir violemment ou le prendre mal ou le prendre contre toi.
Mm-hmm.
Si je te dis, c'est ça que j'attends, c'est vraiment ça que j'attends, je suis pas en train d'en rajouter une couche, en fait. J'ai une amie psychologue avec laquelle je discutais il y a quelques jours qui me disait, ça devient une discussion. C'est-à-dire que la dispute devient une discussion et donc, voilà, ça devient une discussion. Mais il faut donner la règle du jeu à l'autre avant, parce que sinon, effectivement, s'il entend, quand tu dis ça, j'entends ça, il peut se dire, bah ça y est, elle m'en rajoute une couche, je peux rien dire, de toute façon, oui. C'est pas la peine que je parle. Dès que je parle, ça va plus.
Il est nécessaire de choisir le bon moment aussi pour faire ça. On peut aussi dire, voilà, c'est pas le bon moment, on arrête, parce
exactement.
Que c'est pas une discussion, on dit n'importe quoi, on en reparle plus tard.
Exactement. Je vois Sunny qui dit quand on a du mal à imaginer ou visualiser son futur compagnon, donc ça j'imagine que c'est dans l'exercice où on a les mains sur le plexus. L'exercice où on a les mains sur le plexus, le but c'est vraiment de ressentir son pilote. Son pilote c'est notre essence. Notre essence, comme je l'ai dit, elle n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas mentale, elle est vraiment dans le cœur. Donc c'est d'ouvrir son cœur. Le but c'est vraiment d'ouvrir son cœur. Donc si juste vous pouvez poser les mains et ressentir du calme, ressentir que votre cerveau se détend et qu'il y a moins de pensées, c'est déjà gagné. Maintenant, si vous pouvez vous imaginer dans les bras de quelqu'un, ça peut être très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une image de la tête, c'est pas grave. Juste la sensation et le ressenti, c'est ça qui est vraiment le plus important. Mais le plus important, c'est de ressentir son pilote, hein, pour redevenir entier nous-mêmes en fait. Hein. Voilà, alors je regarde si vous avez...
Alors, il va falloir qu'on libère la salle, Agnès.
D'accord.
C'est moi qui passe tout à l'heure. Une dernière, oui. Il y a Sophie Laure qui écrit « Petite, j'ai été abusée sexuellement et je n'attire à moi que des hommes qui m'utilisent sexuellement, car c'est ce que j'appelle. Comment me libérer ?»
Alors là, ça vaut vraiment le coup d'aller voir un thérapeute en EFT,
oui,
par exemple.
Tu as raison, ça, il n'y a pas de réponse.
Voilà.
Minutes.
Excuse-moi, et de faire une longue séance là-dessus.
C'est important de l'adresser.
Voilà, vraiment de faire une longue séance là-dessus parce que vraiment, les abus sexuels, ça marche très très bien en EFT. Ça fait partie des traumatismes qui fonctionnent très très bien en EFT. Ça permet d'aller enlever toute la culpabilité, la honte, la peur, la colère, tout ce qu'il y a autour, mais aussi d'enlever le traumatisme lié à ça. Dans les images qui vont avec, hein, pas dans l'imaginaire, les images qui vont avec, hein, qui restent perpétuellement gravées, mais aussi physiquement, et de pouvoir retrouver l'amour, de pouvoir retrouver des relations tout à fait normales. Donc ça, alors je ne garantis pas qu'en une séance ça fonctionne, mais ça peut, c'est arrivé. Moi, j'ai cette expérience-là en cabinet, c'est plus se faire en une séance. Parfois, il en faut deux ou trois pour vraiment aller nettoyer tous les piliers, comme on dit en
effet. Oui, surtout si c'est quelque chose qui est suffisamment présent pour continuer à répéter ce schéma, ça va peut-être nécessiter un petit accompagnement.
Et parfois beaucoup plus de 3 ou 4.
Et parfois plus de 3 ou 4, on est bien d'accord. Parfois.
Parfois.
Mais en tout cas, ne restez pas seul avec ça.
Donc voilà, j'encourage. Alors vous m'avez dit le nom, mais j'ai pas retenu.
Et le pseudo, c'est Sophie Laure.
Sophie Laure. Alors j'encourage Sophie Laure à contacter un thérapeute en EFT, si possible la personne qui lui aura le plus parlé cette semaine ou une qu'elle connaît déjà. Voilà, pour travailler ça.
Oui.
Parce qu'il n'y a vraiment aucune honte à le travailler en séance, bien au contraire, et ça fonctionne. Donc voilà. Et même si ça devait durer 10 séances par rapport à 35 ans, 25 ans ou 10 ans de souffrance, c'est pas si long.
Effectivement, ça reste une thérapie tout à fait brève.
Exactement. Donc voilà, j'ai vu aussi mon PDF. Le PDF est dans le bonus, où effectivement je parle encore de plein d'autres petites choses, mais j'ai dû m'arrêter parce que le temps passait.
Oui. Voilà. Merci beaucoup Agnès pour tout ça.
Merci à vous.
Et demain, tu pourras reprendre quelques questions qui sont restées en suspens dans la page de commentaires.
Je répondrai à toutes les questions. J'y passerai le temps qu'il faut, mais je répondrai. Avec grand plaisir.
On te les envoie et comme ça, tu pourras en recopier certaines et y répondre si le cœur t'en dit. Et puis, la nuit, il ne faut pas oublier que les Canadiens réécoutent souvent les conférences à partir de la page de réécoute. Et le matin, nous, quand on se lève, on a plein de commentaires.
Exactement. Donc, mais je serai là, je répondrai. Pas de souci.
D'accord. Merci Agnès.
Merci Agnès.
Merci à vous.
Merci.
Merci.